Le journal d'Amélie Gerber.
Bonjour, les partis jurassiens devront être plus transparents. Le Parlement jurassien a confirmé ce matin en deuxième lecture la mise en œuvre de l'initiative populaire cantonale pour la transparence dans le financement des partis politiques. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, dossier à retrouver dans ce journal. Le Spielberg Festival débute la semaine prochaine. La manifestation franc-montagnarde itinérante proposera beaucoup de musique, mais pas que. Elle organisera également des activités autour de l'appartenance et de la migration, en collaboration notamment avec l'AJAM. Le Conseil des États a confirmé l'augmentation de la part de la redevance en faveur des radios et télévisions régionales. Le dossier doit désormais passer au Conseil national, une affaire loin d'être gagnée pour les partisans d'une redevance plus élevée. Le soleil nous accompagnera tout au long de la journée dans toute la région. Quelques légers voiles d'altitude et petits cumulus inoffensifs se développeront dans l'après-midi aux Franches-Montagnes. Les températures atteindront les 27 degrés au meilleur de la journée en plaine et les 23 degrés à 1000 mètres. La loi sur la transparence définitivement acceptée aujourd'hui par le Parlement jurassien. Les partis politiques devront donc publier leur budget et leur financement. Le texte doit concrétiser une initiative populaire cantonale lancée par le Parti socialiste et validée par le peuple en 2022. La majorité du centre-droite exprimée en première lecture a confirmé l'ensemble de ses positions. La loi s'appliquera donc aux communes de plus de 5000 habitants. Les dons pour les candidats d'une même liste ne seront pas cumulés. Le montant de l'amende ne dépassera pas 1000 francs et la liste des donateurs devra être consultée sur papier et non en ligne. Lors du vote final, le Centre, l'UDC, le PLR et le groupe PCSI Verts Libéraux ont eu le dernier mot par 35 voix contre 22. Rapporteur de la commission, le centriste Lionel Maître affichait sa satisfaction.
C'est plutôt un moment satisfaisant parce qu'on a beaucoup travaillé, ça a pris beaucoup de temps aussi en commission, ça a été reproché, mais c'est aussi qu'on a eu du mal à se mettre d'accord, essayer de trouver des compromis entre les différents partis politiques. Aujourd'hui, je crois que la droite est allée un bout dans le sens de la gauche. Enfin, la gauche le ressent peut-être pas forcément comme ça, mais j'espère que, comme l'a dit aussi le député Amstutz, je crois qu'il faut appliquer cette loi et puis voir à l'avenir si elle pourrait être modifiée, adaptée, améliorée. Mais je crois qu'il faut aussi laisser le temps au temps.
Entre la première et la deuxième lecture, il y a eu des tentatives de faire un pas supplémentaire. Vous ne les avez pas vraiment retenues. Il y a une explication ?
Ben oui, parce qu'on a beaucoup discuté en amont et on parlait surtout de la limite des 5000 habitants dans les communes. Et on est assez convaincu que dans les communes de moins de 5000 habitants, il n'y a pas de dons ou très peu. Donc ça ne nécessite pas d'appliquer une certaine loi.
Le sentiment que la volonté du peuple n'est pas respectée, c'est ce qu'avance la gauche, le Parti socialiste. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Moi, je crois que c'est une erreur, hein, parce que la volonté du peuple, c'était d'avoir de la transparence, surtout pour les élections au niveau cantonal, éventuellement au niveau communal pour les plus grandes communes. Et aujourd'hui, on respecte parfaitement ça.
Le Parti socialiste était très remonté par la décision du Parlement. Les représentants de la gauche estiment que la volonté populaire est bafouée et que la loi ne respecte pas les termes du texte de l'initiative. Le député PS Nicolas Girard.
Le texte qui a été adopté aujourd'hui par le Parlement est totalement démuni de sa fonction. Hein. Donc on est parti d'un texte de base qui était quand même relativement clair, bien que conçu en termes généraux. Mais le texte qui accompagnait l'initiative, donc, qui a été proposé à la population, était clair. Il y avait tous ces points. Ben, quand tous étaient rejetés aujourd'hui finalement par la majorité du Parlement.
Qu'est-ce qui vous a le plus, j'ai envie de dire, contrarié ?
Mais c'est le mépris avec lequel la volonté populaire a été, je dirais, déglingué, c'est pas le mot juste, mais c'est fort parce que le message était clair et puis aujourd'hui, on a fait abstraction de tout ce que le peuple nous a demandé, le peuple souverain a demandé en votant oui. Il faut rappeler que le texte soumis au peuple est opposé à un contre-projet qui était moins restrictif. Le peuple a choisi cette voie-là de notre texte de base et puis le message était clair. Puis aujourd'hui, on arrive au point mort, quoi.
On a entendu parler de l'idée d'un recours devant la Cour constitutionnelle. Quelle est votre position ?
Alors personnellement, moi j'y suis favorable. Après maintenant, c'est au comité vraiment d'initiative, au comité du Parti socialiste de décider, mais moi je suis favorable.
Un dossier réalisé par Régis Cerf. L'affaire de la rave party avortée de Souls, qui s'est déroulée à Malraux le week-end dernier, s'est invitée au Parlement jurassien. Une question orale sur le sujet a été posée ce mercredi matin devant le législatif cantonal. Le député PLR Thomas Vuillaume a demandé quelles sont les actions des polices cantonales en amont de ce type d'événement pour en empêcher la tenue. La ministre de l'Intérieur, Nathalie Bartolo, a indiqué notamment qu'une veille sur les réseaux sociaux était mise en place, mais qu'elle est toutefois fort complexe à mener. La ministre a aussi rappelé que la vigilance des citoyens était importante, ce qui a été le cas à Souls le week-end dernier. Nathalie Bartolo a livré quelques éléments supplémentaires à ce propos.
La police cantonale a d'ailleurs récemment rappelé à toutes les communes que lorsque quelque chose d'anormal était observé, que cela soit des mouvements inhabituels, des colonnes de voitures ou des installations suspectes par exemple, était observé qu'il fallait l'en informer sans délai pour lui permettre d'intervenir le plus rapidement possible. On le sait, quand il y a quelques rêveurs, c'est facile d'intervenir. Quand ils sont 200, 300 déjà, c'est quasiment trop tard. La police dispose bien évidemment d'un protocole d'intervention pour faire face à ce type de manifestations illégales. Les interventions sont complexes car elles doivent respecter aussi la proportionnalité par rapport aux actes délictueux. Mais des mesures dissuasives peuvent également être mises en place, comme des barrages routiers, des contrôles préventifs des véhicules ou encore l'interdiction d'accès à certains sites. Je peux encore vous préciser que suite aux événements de ce week-end, la police cantonale jurassienne va s'approcher de la police cantonale bernoise pour tirer les enseignements nécessaires de cette fâcheuse expérience et renforcer encore, au besoin, son protocole d'intervention.
Thomas Vuillaume s'est déclaré satisfait de la réponse du gouvernement. Un véhicule est en panne dans le tunnel du Mont-Russelin. La police cantonale jurassienne vient de nous informer que l'ouvrage a été fermé dans la direction de Porrentruy. Les automobilistes doivent sortir à Glovelier et prendre les rangiers. Le Spielberg Festival, un rendez-vous ouvert sur le monde. La deuxième édition du festival itinérant franc-montagnard se tiendra du 26 au 28 juin prochain dans plusieurs lieux du district. La culture prendra ses aises au Noirmont, au Pré-Petit-Jean et à Seigne-Légier. Si la musique sera fortement présente, les organisateurs de l'événement s'engagent aussi contre le racisme. Nicolas Musy.
Le Spiegelberg Festival propose une médiation culturelle. Elle est centrée sur l'appartenance et la migration. La manifestation collabore avec l'AJAM, l'association Jura Intégration, et elle est soutenue par le Bureau jurassien de l'intégration des étrangers et de lutte contre le racisme, ainsi que le Service fédéral de lutte contre le racisme. Pour les organisateurs, le Festival Ténion doit être plus qu'un événement musical. L'un des membres du comité, Louis de Senac.
Je crois que dès le départ, il y avait l'idée de ne pas faire que de la musique, justement. D'avoir effectivement un événement qui vient pas recopier ce qui existe déjà, parce que c'est vrai que c'est quand même un lieu, les Franches-Montagnes, qui accueille une scène culturelle qui est active en fait. L'idée effectivement c'est de compléter cette offre en faisant se retrouver les gens, disons, à des choses qui sont davantage que juste des concerts, voilà.
Dans ce cadre, le Spiegelberg Festival propose le projet Territoire. Trois ateliers d'écriture ont réuni une dizaine de migrants ces derniers jours. Ils ont été suivis par un exercice de lecture.
Je suis afghan, je parlais pashto, j'ai 19 ans, le matin je mangeais.
Ilyas Biazi est afghan, il lit en français mais parle pachtou. Il était le seul migrant à avoir pu se libérer pour participer au premier atelier de lecture dispensé par le festival. Il a 19 ans et est arrivé dans le foyer de l'AJAM à Montfaucon en novembre dernier. Ilyas Biazi apprécie l'expérience.
Au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je ne pensais pas que les gens allaient bien réagir. Mais dès que j'ai vu que les gens commençaient à venir vers moi, j'ai eu envie de rester là avec eux. Et puis l'Iran public ne me fait pas peur. Je me sens bien.
Les participants sont encadrés par l'autrice et comédienne Fanny Vobman. La co-animatrice explique les motivations des migrants à prendre part à ces ateliers.
Il y avait, je crois, beaucoup juste l'envie de rencontrer des gens, de partager des moments, de pas être seul, de sortir de chez soi ou du centre dans lequel on habite. Et puis beaucoup de pouvoir pratiquer le français et progresser dans cette langue qu'ils essayent vaillamment d'apprendre.
Et après l'exercice, les participants à l'atelier Territoire liront leur création en public sur la scène du village du Spiegelberg Festival.
Cette lecture en public aura lieu le 27 juin à 18h aux abords de la Halle Cantine à Seigne-Légier pour le Spiegelberg Festival. Le centre médical à basse-cour se concrétise. Pascal Fèvre, l'administreur d'Idri Lessa, la société de Les Montaignes qui porte le dossier, a confirmé aujourd'hui à RFJ que toutes les oppositions avaient été levées. Le permis de construire a été délivré. Les travaux de ce nouveau centre médical devraient donc commencer dans le courant de l'été. L'objectif est que le projet soit terminé d'ici une année et demie, voire deux ans. Aucun changement majeur n'a été apporté au projet, selon Pascal Fèvre. Issue dramatique hier en fin de journée au lac de Neuchâtel. Un jeune Français de 26 ans s'est noyé alors qu'il se baignait dans le lac à la baie de l'Évole. Le ministère public et la police neuchâteloise indiquent que l'homme faisait partie d'un groupe d'étudiants de passage à Neuchâtel. Malgré les efforts des secours, il est décédé dans la nuit à l'hôpital. Par 34 voix contre 5, le Conseil des États a confirmé ce matin l'augmentation de la part de la redevance en faveur des radios et télévisions régionales de 6 à 8%, seul l'UDC s'y est opposé. Les 38 radios et télévisions régionales concessionnées verront le gâteau qui leur est dévolu passer de 86 à plus de 110 millions, mais avec les diminutions annoncées de la redevance, les diffuseurs privés régionaux ont au moins la garantie de ne rien perdre. Pourquoi une telle générosité, le conseiller aux États jurassiens du centre, Charles Juillard.
Parce que ça permettra à ces diffuseurs justement de se concentrer sur l'information et de garantir cette information qui fait partie du service public. Si nous défendons ces médias, c'est effectivement pour pouvoir continuer de forger l'opinion des gens avant les votations, de pouvoir les renseigner sur ce qu'il se passe au niveau des chambres fédérales de manière générale, mais aussi de leur région.
Maintenant, ça doit passer au Conseil national. Est-ce que ce sera plus dur ?
Ça n'est pas encore gagné, parce qu'en effet, du côté du Conseil national, et on l'a vu ici, ceux qui s'opposent à ces modifications sont nettement plus forts au Conseil national. Et je crains qu'il faudra vraiment que ceux qui soutiennent réellement la presse régionale se mobilisent, parce qu'on voit très bien que ceux qui s'y opposent, ce sont essentiellement ceux qui disposent de leur côté, de leurs propres médias, qui n'ont pas besoin de ce soutien.
Le dossier passe ainsi au Conseil national. Trois corps ont été retrouvés dans le canton de Soleure hier. Il s'agit d'une femme et d'un couple de retraités. La femme a été retrouvée dans le début de l'après-midi dans un appartement d'Egerkingen. Peu de temps après, l'auteur présumé s'est rendu à la police. Il s'agit d'un Suisse de 41 ans. Sur la base de ses déclarations, les corps d'un couple de retraités ont été découverts dans leur maison d'Egendorf. L'enquête sur les circonstances de l'acte, son déroulement et son motif est en cours.
RFJ, les 12h27.
RFJ, sport.
Journée historique pour le basket suisse féminin. L'équipe de Suisse entre en lice à l'Eurobasket féminin 69 ans après sa dernière apparition en championnat d'Europe. Pour couronner le tout, les Suissesses auront les honneurs du match d'ouverture officiel ce soir à 19h30 face à la Grèce, chez elles, dans le stade de l'Olympiakos, qui devrait être rempli avec 14 000 spectateurs. La Suisse sera contrainte à l'exploit dans son groupe, composé par ailleurs de deux grandes nations de basket, avec la Turquie et la France, finalistes des derniers JO. L'entraîneur assistant et ancien entraîneur du BCB, Romain Gaspo, mesure le défi qui attend l'équipe de Suisse.
La Grèce, c'est quand même une grosse nation de basket qui va jouer à la maison. Donc on aura la chance de jouer dans le stade Olympiakos, qui a priori sera bien plein pour ce match d'ouverture. Parce qu'on a la chance ou la malchance d'être le match d'ouverture. Ça va être, je pense, un grand moment pour tout le monde de pouvoir jouer dans un stade d'Euroleague qui sera plein et face à une équipe de Grèce qui a du talent, des joueuses d'Euroleague à nouveau. La Turquie, dans le basket féminin, c'est Fenerbahçe, multiple champion d'Europe. Donc une équipe difficile à manier. Et bon, la France, si c'est pas ce qui se fait de mieux sur la planète, c'est en tout cas pas loin, parce que ça s'est vu lors des JO qu'ils étaient tout près des États-Unis. Donc c'est certainement une des meilleures nations du monde. Donc tout ça mis bout à bout, c'est un gros challenge devant nous. Mais encore une fois, on va aborder ces matchs avec beaucoup d'ambition. On joue la Grèce en premier, donc je pense que c'est là qu'il faudra déjà servir à des talons un peu ce match, parce qu'il faudra être très très bon dans ce match-là. S'il y a un match à prendre, c'est peut-être celui-là. Ça semble, sur le groupe qu'on a, peut-être l'adversaire le plus prenable, même si ce n'est pas un adversaire facile. Si on est capable de prendre la Grèce, peut-être qu'on arrivera contre la Turquie avec de la confiance. Et pourquoi pas jouer un quart.
Suisse-Grèce, premier match de l'Euro basket pour l'équipe de Suisse, c'est ce soir à 19h30 au Pirée. Le rêve s'est encore brisé en NHL pour une équipe canadienne. Edmonton s'est incliné cette nuit pour la deuxième année consécutive en finale de la Coupe Stanley. Défaite 5-1 face aux Florida Panthers qui remportent la série 4-2 et s'adjuge un deuxième titre d'affilée dans ce remake de la finale de 2024. Cela fait 32 ans qu'une équipe canadienne n'a pas remporté le trophée depuis Montréal en 1993. C'est la fin de ce journal. Très belle journée.